En langage chrétien, pour nous catholiques, commandement se dit sacrement et amour se dit unité. C'est ce que nous vivons en cet instant. Le commandement de l'amour, c'est la messe, c'est le sacrement de l'unité. Par-dessus tout, dit saint Paul, qu'il y ait l'amour, c'est lui, l'amour, qui fait l'unité dans la perfection. L'unité par le Christ, autour du Christ. Et c'est ce que nous lui demandons à chaque messe, à la fin, à la prière pour la paix. La prière pour la paix que nous portons particulièrement tous ces jours-ci, toutes en cette actualité. Nous lui demandons la grâce de la paix et nous ajoutons « Et conduis-nous vers l'unité parfaite. » L'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. L'unité dans la perfection, l'unité parfaite. C'est ce à quoi servent les sacrements. C'est ce à quoi visent les sacrements. À nous perfectionner, nous rendre parfaits. C'est aussi un commandement de Jésus, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, dit-il au sermon sur la montagne. Et la tradition spirituelle, la tradition de l'Église, a repris ce nom, ce mot, parfait, avec une certaine audace, pour désigner ceux qui, comme nous, cherchons à nous unir à Dieu, l'union à Dieu, à nous unir par le Christ. Et pour cela, à faire l'unité entre nous, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et la tradition spirituelle a distingué, c'est très classique, trois voies, trois démarches qu'elle a appelées purgative, illuminative et unitive, en précisant à chaque fois la voie purgative des commençants, la voie illuminative des progressants et la voie unitive des parfaits. Les parfaits, c'est un mot, évidemment, ça se prête à sourire, à la moquerie, mais pourtant, c'est ce que nous utilisons couramment dans la vie quotidienne, de façon très concrète. Lorsque on cherche, par exemple, une date, un rendez-vous, qu'on cherche à se mettre d'accord sur un texte, à un moment donné, on dit « Oh, c'est parfait ». Ça ne veut pas dire « c'est parfait ». Qu'est-ce qui est parfait dans la vie ? Rien. Dieu seul est parfait. Mais ça veut dire, quand nous disons « c'est parfait », ça veut dire « on a trouvé un accord ». Et rien que ça, c'est immense. Pouvoir se mettre d'accord. Dans la vie spirituelle, la voie appelée unitive des parfaits, évidemment, suppose et implique même la poursuite des deux voies qu'elle appelle purgative, de purification, et illuminative, de la vision de Dieu. C'est ce que nous allons célébrer dans quelques jours. C'est ce que nous allons célébrer à la Toussaint, où nous allons fêter les saints et les saintes qui sont parvenus à la perfection de la vision de Dieu. C'est ça la sainteté, c'est la perfection de la vision de Dieu. Et le lendemain, jeudi, au jour des défunts, nous prions pour ceux que nous espérons être au purgatoire. Quand je dis nous espérons, c'est que déjà quand on est au purgatoire, on est assuré du salut. C'est bon, on est sauvé. Mais il y a encore un travail qu'on appelle purgatif, de purification, pour entrer justement dans l'illumination parfaite, l'illumination céleste, ce qu'on appelle le bonheur, la béatitude. Et ces trois voies, purgative, illuminative, unitive, c'est un peu comme les trois vertus théologales que nous avons invoquées dans la prière d'ouverture, la foi, l'espérance et la charité. C'est la charité la plus grande. Et ce qu'il y a de plus grand, c'est toujours l'unité. Cherchez l'unité par-dessus tout, contre tous les conflits, contre toutes les divisions. C'est ce que nous sommes venus demander au Seigneur. Et c'est ce que nous venons de demander à chaque messe, nous unir à lui pour être unis entre nous. Alors comment ces trois voies s'agencent-elles entre elles? Il faut quand même préciser que l'entrée, le point de départ, c'est ce qu'on appelle l'illumination, c'est la grâce du baptême. La lumière du Christ, la lumière de l'Esprit, c'est ça qui nous fait vivre. Alors à la messe, on commence par ce qu'on appelle le rite pénitentiel, par demander pardon, par demander effectivement une purification de notre cœur. Mais en réalité, dans la vie, c'est la lumière qui est première. Et cette lumière, elle suppose quoi? Elle suppose que nous ayons entendu la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, c'est ce que dit saint Paul, il dit « La foi, elle naît, et elle grandit, elle naît de la prédication. » Et saint Jean, au début de sa première lettre, vous savez qu'il y a le prologue de saint Jean de son évangile, et il y a un autre prologue de saint Jean de sa première lettre qui dit « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, nous vous l'annonçons. » Il faut avoir entendu le message d'amour de Dieu pour voir, pour nous voir les uns les autres avec les yeux de la foi, pour ne pas voir dans l'autre un ennemi, mais mon frère, pour pouvoir reconnaître en toute personne un frère, pas un ennemi. Et c'est pourquoi le premier commandement, le plus grand, c'est l'amour. Mais le premier au sens chronologique, c'est écoute. Écoute Israël. Un samedi matin, il y a des années et des années, j'étais à l'accueil d'une paroisse, peu importe laquelle, un homme arrive en trombe et me demande « Que dit la Bible quand on a tué quelqu'un ?» J'étais un peu pris de court. Je lui ai répondu que la Bible dit de ne pas tuer. Et c'est la réponse que Jésus fait à celui qu'on appelle l'homme riche ou le jeune homme riche, qui vient le voir un jour en lui disant « Que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Observe les commandements. » Et l'homme riche dit « Lesquels ?» Jésus ne dit pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Jésus dit « Tu ne tueras pas. » Voyez, interrogé sur les commandements, il ne fait pas la même réponse ici au docteur de la loi. Il ne dit pas le plus grand, le premier, c'est « Tu ne tueras pas. » Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Pourquoi ? Parce que ce docteur de la loi, c'est un enseignant. Jésus le ramène effectivement à la source, la loi et les prophètes. Mais à celui qui vient le voir, qui est dans la vie, peu importe qu'il soit un progressant ou un commençant, Jésus lui rappelle les interdits fondamentaux. C'est au chapitre 19 de saint Matthieu, c'est facile de se souvenir, 19, verset 19. « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage. » Et dans le sermon sur la montagne, il est temps, ce n'est pas uniquement pas de meurtre, c'est attention aux injures, attention à la colère, attention aux mots qui peuvent tuer, mais pas de meurtre, pas d'infidélité, pas de vol, pas de mensonge. Si déjà on faisait ça, on serait en paix. Ce serait déjà le bonheur. Ne disons pas que c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est très simple. Que ce soit difficile, c'est autre chose. Mais c'est extrêmement simple. Alors mon visiteur m'a dit que non, il avait déjà tué deux personnes. Et la question pour lui, c'était comment on sort d'un engrenage? C'est la vraie question, comment sortir d'un engrenage? Comment fait-on pour sortir? Nous n'appelons pas un engrenage, nous l'appelons ça l'esclavage du péché. L'engrenage. Comment on fait pour retrouver sa liberté? Eh bien, pour nous catholiques, ce n'est pas seulement par le respect des commandements. La réponse est même la liberté nous a été donnée par le Christ, par les sacrements et la prière. Et les sacrements, c'est la forme la plus haute de la prière. C'est le double rôle des sacrements, de ce que nous avons à vivre, nous unir à Dieu pour être unis les uns aux autres. Unis au Christ, autour du Christ et par le Christ.